Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on attaque tout de suite donc avec cette première vision de marché. On accueille ce matin Andjay Kavalek. Bonjour Andjay.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de patrimoine, directeur général de Moneta Asset Management. D'abord, regardons un petit peu, survolons, si vous le voulez bien, nos marchés, en regardant peut-être le catalyseur le plus impressionnant de ces dernières semaines, c'est Donald Trump, donc le catalyseur américain, on va dire. Comment vous l'interprétez, ce catalyseur américain? On a l'impression qu'il y a, je sais pas, des ratés, des doutes, des surprises sur l'état de santé du consommateur, sur l'inflation, sur les tensions. Enfin voilà, c'est pas ce qu'on nous avait promis. Enfin les marchés, ils doutent, ils cherchent,
Écoutez, moi je vais revenir peut-être à la situation qui avait eu lieu en novembre à l'élection de Trump. Et à l'époque, donc c'était une époque qui n'est pas si lointaine, le consensus était quand même que les États-Unis allaient sortir extrêmement gagnants. Il y avait les fameux Trump trades qui devaient enrichir tout le monde. Alors je rappelle pour ceux qui ne s'en souviennent pas quels étaient les Trump trades. Les Trump trades, c'est le dollar gagnant, c'est la Chine qui devait souffrir, c'est l'Europe qui devait souffrir, c'est aussi les crypto-monnaies qui devaient s'envoler. Et on voit qu'après quand même déjà 3 mois d'activité de Trump, 3 ou 4 mois d'activité de Trump, tous ces Trump trades ont fait pchit. Alors le dollar, il a chuté lourdement. L'euro est revenu à un niveau au-dessus du niveau qu'il était en novembre. La Chine, les marchés chinois sont en très fort rebond depuis le début de l'année. Mm-hmm. Celui qui avait vendu les marchés américains, enfin vendu l'Europe et acheté les Américains, il se retrouve avec des très lourdes pertes au niveau boursier. Les cryptos, je commente pas. Trump en est réduit à dire qu'il va en mettre dans les réserves stratégiques des États-Unis pour soutenir les cours. C'est vraiment pitoyable. Et donc on a un véritable retournement de situation. Tout ça parce qu'il a quand même amené ce que le consommateur et ce que l'investisseur déteste, l'incertitude. Oui. L'incertitude. Alors l'incertitude, le principal point d'achoppement, ce sont ces droits de douane. Alors les droits de douane, quel impact ils ont? Écoutez, c'est très simple. Les droits de douane, ils renchérissent les produits, ils abaissent les marges des sociétés, ils réduisent la compétitivité des pays, ils augmentent le chômage, ils augmentent l'inégalité. Mais bon, à part ça, ils
sont
parfaits.
Tout va bien.
À part ça, ils sont parfaits. En tout cas, on le voit bien. On a aujourd'hui un consommateur aux États-Unis qui est sous le doute. Il y a aussi toute une série de politiques extrêmement brutales qui sont très anxiogènes, avec des licenciements, des centaines de milliers de personnes qui sont licenciées. Et donc aujourd'hui, on a un retournement de situation qu'on aurait eu du mal à prévoir il y a encore 5 mois. Pourtant, nous, chez Moneta, on poussait l'Europe fin de l'année dernière. Et je me rappelle, je prêchais un peu dans le désert parce qu'on se disait qu'il y avait quand même des catalystes forts pour que l'Europe rebondisse. Mais il y en a un que je n'avais pas anticipé, c'est que c'est finalement Trump qui allait donner un coup de pied aux politiciens européens. Il faut savoir que les politiciens européens sont vraiment de qualité. Enfin, je ne parle pas maintenant ici, je parle en collectif, sont de qualité quand même médiocre et ils ne se bougent que sous la contrainte parce que chacun d'entre eux est concentré sur son pied de carré étriqué national en perdant la vue globale. Là, Trump a obligé l'Europe de réagir. Et donc, la réaction de l'Europe, c'est quand même une révolution telle que moi, je ne l'avais pas vue en 20 ans de marché. Donc, c'est vrai.
Et c'est presque symbolisé par l'Allemagne, enfin, je veux dire, qui a renversé la table et qui, du côté un peu l'oncle Picsou qui ne voulait pas donner un centime, change complètement de paradigme, quoi.
C'est poussé par l'Allemagne, mais c'est aussi poussé par l'Europe, parce qu'il y a, deux plans. Il y a quand même une relance budgétaire extrêmement forte en Europe aujourd'hui, sous l'impulsion, bien sûr, de l'Allemagne. C'était très largement commenté avec les mesures Merz, donc en faveur du réarmement, mais aussi les 500 milliards pour l'infrastructure. Mais il y a aussi une relance militaire très forte de la part de l'Europe pour permettre à l'Europe de regagner en souveraineté. Et donc, on a un véritable changement d'époque. Il faut savoir que maintenant, depuis 30 ans, on vivait, entre guillemets, on devait vivre sous les dividendes de la paix, avec un secteur de la défense qui était réduit à la partie congrue. Je le rappelle, la France dépensait 2% du PIB en défense encore l'année dernière, alors qu'elle en dépensait 4% dans les années 70. L'Allemagne, 1% du PIB en défense, qu'elle en dépensait 3% dans les années 70. Et donc, qui dit relance par des investissements dans la défense, dit aussi beaucoup de recherche et développement, vous voyez. Donc, c'est un aspect qui est...
Vous disiez, Andrzej, même en anticipant presque la question, de dire, moi, je croyais à l'Europe, etc. On était chez Moneta, très en avance, même si on n'avait pas imaginé que ce serait Trump qui nous collerait un bon coup de pied au derrière, etc. Mais moi, je regarde les choses depuis une quinzaine d'années, autour de une vingtaine d'années même maintenant, autour de cette bourse, de ces questions de valeur, etc. Et ça fait des années aussi que j'entends chaque début d'exercice, vous et vos camarades, dire « Ah, ça y est, cette année, ça va être l'année de l'Europe, bien sûr, ça va être l'année de l'Europe. » Et puis, au fur et à mesure que passent les mois, on dit « Ah bah non, bah finalement, c'était encore pas cette année. » Est-ce que vous pensez, en regardant tout ça, que l'Europe peut devenir cette fois-ci vraiment un moteur de cette croissance mondiale, etc. et qu'il y a des, en dehors de la défense peut-être, mais des secteurs, des pays qui sont plus prometteurs les uns que les autres?
Alors, jusqu'à devenir moteur de la croissance mondiale, c'est peut-être ambitieux, mais en tout cas, elle peut avoir une croissance plus élevée que celle qu'elle avait ces dernières années. Et je vais vous dire, il y avait quand même, en fin d'année dernière, des raisons d'être optimiste, mais on a finalement eu plus que ce qu'on espérait. Sachant qu'en fin d'année dernière, bon, dans les sondages, déjà, les conservateurs en Allemagne étaient en leadership, et leur programme ne faisait pas de secret. Ils devaient relancer l'investissement. Ça c'est clair. On devait avoir aussi, dès l'arrivée de Trump, il était assez probable que l'Europe bénéficie d'une paix probable en Ukraine. Alors, même si la voie est semée d'embûches, ce n'est pas certain, mais enfin, en tout cas, la probabilité d'un accord et donc d'une baisse de cette prime de risque dont l'Europe souffrait depuis maintenant 3 ans, devait se mettre en place. Mmh. On avait des cours du pétrole qui étaient quand même assez sages, et Trump, qui relance sa guerre des tarifs, il avait quand même intérêt à ne pas faire flamber trop les prix du pétrole, puisque c'est une part très importante de la facture des ménages américains. On avait aussi des baisses de taux qui étaient enclenchées. Donc il y avait un certain nombre de choses qui étaient en place et qui devaient se matérialiser dans les mois qui viennent. Le bonus qu'on a eu, c'est cette relance des dépenses de défense, et qui là sont un véritable game changer, je pense.
Alors, rentrons maintenant un petit peu dans le dur du sujet, parce qu'en fait, c'est aussi votre cœur de métier, c'est d'aller regarder les styles, les valeurs, les catégories, etc. On voit qu'il y a un retour de la value, des cycliques, etc. C'est durable, c'est quelque chose sur lequel on peut appuyer finalement ses choix patrimoniaux ?
Écoutez, le style value marche quand il y a un peu plus de croissance et quand les taux sont plus élevés. C'est ce qu'on n'avait pas depuis maintenant 7-8 ans, et c'est ça qui avait poussé, bien sûr, toutes les valeurs de croissance, toutes les valeurs défensives. Les valeurs défensives et les valeurs de croissance étaient recherchées dans un contexte où on avait beaucoup d'incertitudes. Et il faut savoir que depuis maintenant 7-8 ans, on vivait en Europe, du point de vue de l'investisseur européen, dans un climat d'incertitudes. Je les nomme, ces incertitudes. Donc, tout d'abord, il y avait les risques de récession aux États-Unis. Quand Trump était arrivé en 16, c'était pas la folie. Puis, il y avait le début des guerres commerciales en 2018 avec la Chine. C'était aussi anxiogène. Ça devait provoquer des récessions. Puis 2020, le Covid. Puis 2022. Donc, tous les deux ans, 2022, la guerre en Ukraine. Tous les deux ans, on avait un coup de massue. Je ne parle même pas de la dissolution que les politiciens français ont organisée en France. Et donc, il y avait des raisons pour ne pas être investi sur des valeurs qui sont des valeurs très sensibles à la conjoncture. Voilà. Alors maintenant, où on a un plan de relance, un double plan de relance, un plan de relance européen et un plan de relance allemand qui est crédible parce qu'il est financé. C'est le pays le la principale économie de l'Europe. Et même si les autres pays ne relancent pas, ils vont en bénéficier. La France est le principal partenaire étranger de l'Allemagne. Bien sûr que ce plan va être extrêmement positif pour l'économie française, même en absence de réforme ici. Et donc, aujourd'hui, je pense que l'investisseur peut mettre ses lunettes roses. Alors, ce plan de relance a fait augmenter les taux, donc les taux longs ont pris entre 20 et 30 points de base. C'est important, mais ce n'est pas non plus majeur. Mais c'est justifié par des perspectives de croissance beaucoup plus élevées qu'avant. Alors, les économistes, nous ne sommes pas économistes chez Moneta, mais on lit ce que disent les uns et les autres. Les plus optimistes, ils disent entre 0,5 et 1 point de croissance de plus pour l'Europe. J'ai vu aussi des gens ajouter 1,5 de croissance, donc ça devient maintenant très significatif, sachant qu'en Europe, on flirtait avec une croissance globale autour de 1, voire 1 moins, et avec les deux pays majeurs, la France et l'Allemagne, qui étaient plus proches de 0 que de 1.
Et alors, on réfléchit comme ça, avec cette thématique value, avec l'idée des cycliques, etc., ou est-ce qu'il faut aussi descendre un peu et sectoriser un petit peu ses choix ? Enfin, alors, la défense, il ne faut pas être grand clair pour se dire tiens, on peut peut-être jouer de la défense, mais il y en a d'autres pour vous comme ça, des secteurs qui ont toutes les raisons d'être accrochés.
Il y a des secteurs qui vont être extrêmement gagnants de la phase actuelle du marché. Le principal, je vais en énumérer quelques-uns. Le principal qui vient, ça vient d'un commentaire que je faisais sur les taux. On a une courbe des taux maintenant qui est redevenu normal, c'est-à-dire pentu, avec des taux courts très nettement plus bas que les taux longs. Il faut savoir que c'est une configuration de marché normale. Celle qu'on avait connue ces dernières années était anormale, avec des taux longs qui étaient beaucoup plus faibles que les taux courts et qui étaient une zone un tout petit peu dangereuse. Donc une courbe des taux normale, c'est par exemple extrêmement favorable pour le secteur bancaire, et notamment le secteur bancaire français. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, les banques françaises, elles collectent des dépôts qu'elles rémunèrent avec des taux à court terme, et elles sont prêteuses à long terme, et donc elles dégagent une marge. Et donc si le différentiel est positif, c'est extrêmement favorable pour le secteur bancaire. Donc c'est un secteur qui est un secteur typiquement value et qui a énormément progressé depuis le début de l'année. Deuxième secteur qui va être porté par les plans de relance, par peut-être un peu plus de vigueur économique en Europe, c'est en Allemagne, mais aussi en Europe, c'est le secteur de la construction. Donc Vinci, Eiffage, Saint-Gobain, tous les producteurs de matériaux de construction, et bien sûr les sociétés qui sont exposées à l'Allemagne, donc Wienerberger ou Rockwool, les cimentiers Heidelberger Cement, ce sont toutes des sociétés qui étaient extrêmement souffrantes ces dernières années. Alors, il ne faut pas quand même mettre toute la value dans le même panier. Il y a un secteur value qui aujourd'hui reste un peu dans le brouillard. C'est typiquement le secteur automobile, mais qui a ses contraintes propres. Et donc il faut faire très attention quand on parle de style, puisque bien sûr, comme vous le dites, à l'intérieur des styles, il y a des segments qui n'ont pas les mêmes dynamiques.
Alors, je vais continuer à gratter un petit peu. Et alors là, elle est carrément sur votre terrain de jeu. Ce sont les petites et moyennes valeurs. Elles ont été très longuement délaissées. Et là, on hume comme un frémissement. Vous y croyez, là, vous ?
On y croit dur comme fer, d'autant plus que c'est un secteur qui a qui a accumulé un retard très important. Je vais donner 4 chiffres pour illustrer ce retard. Alors, le précédent pic des petites valeurs en France, en tout cas, il était fin 2017. Depuis fin 2017, si on prend les 10 principales valeurs du CAC 40, elles ont doublé. Les 30 suivantes ont fait plus 40. Le mid a fait autour de 0. Et les small ont perdu 30%. Vous voyez, donc il y a quand même un monde en fonction de...
Et elles peuvent reprendre du poil de la bête ?
Alors, elles peuvent reprendre, elles reprennent en général... Alors, il y a beaucoup d'éléments qui nous font dire qu'elles peuvent reprendre. Tout d'abord, c'est un style de société qui marche bien quand on a un peu d'optimisme économique. Donc, ça ne sert à rien d'aller sur les small quand on est pessimiste économiquement, et surtout quand on est pessimiste sur l'Europe, puisque ce sont en général des sociétés plutôt domestiques, plutôt soit nationales, soit européennes. Et aujourd'hui, on a quand même un
Même si elles peuvent être parfois leader mondial. Hein,
tout à fait, tout à fait. Elles peuvent être très fortement exportatrices, mais en général, le segment est plutôt considéré comme un segment national ou européen. Et aussi, ce sont des sociétés qui ont des bilans où ils sont structurellement, ils ont de la dette plutôt à taux variable. Voilà, donc on a aujourd'hui deux catalystes puissants, enfin ce sont des catalystes externes, enfin entre guillemets macroéconomiques, c'est le retour de la confiance et le retour des perspectives de croissance favorables en Europe, et puis la baisse des taux courts qui sont favorables à cette catégorie de valeurs. Et enfin, ce qui est important de voir, c'est à la fin, nous sommes, comme vous le savez, des stock pickers, nous regardons les valorisations. Les valorisations sont aujourd'hui extrêmement dépréciées. Mmh. Si je prends, donc au-delà de la France, hein, par exemple, bon, on se concentre sur le stocks européen, si on prend les small dans le stocks, elles ont historiquement toujours traité avec 2 points de multiple de plus que les grandes. Et c'est normal parce que les petites et moyennes valeurs ont plus de croissance. Il est plus facile de passer de 100 millions de chiffre d'affaires à 200 millions de chiffre d'affaires que de 10 milliards à 20 milliards.
Bien sûr.
Et donc, ce supplément de croissance était valorisé par des multiples supérieurs. Et donc, aujourd'hui, elle traite à 2 points de multiple en dessous des larges.
Ça, donc il y a un vrai rattrapage qui peut se faire.
Ça, c'est le premier niveau de rattrapage. Et le deuxième niveau de rattrapage, c'est qu'elle traite aussi en dessous de leur moyenne historique. Vous voyez, leur moyenne historique était autour de 15 fois les résultats. On est à 12 fois les résultats. Et donc, si on a ne serait-ce que ce rattrapage des deux, c'est-à-dire qu'elles reviennent... si on a l'un des deux, bah, ça fait plus 20 à 30% de potentiel. Si on a les deux, ça fait plus 40% de potentiel pour la catégorie. Toute chose égale par ailleurs, parce qu'on aura aussi, avec les révisions économiques, c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on est en Europe avec des surprises économiques positives, là où on est aux États-Unis avec plutôt des surprises économiques négatives. Et les marchés anticipent et les marchés se projettent. Et donc ça, c'est un élément supplémentaire qui pourrait alimenter la hausse.
Bon, juste pour terminer, qu'est-ce que vous auriez envie de dire, voilà, à un auditeur, une auditrice qui vous écoute ce matin et qui dit « Tiens, j'ai pas d'action dans mon portefeuille, dans mon patrimoine. Andrzej me convainc. Qu'est-ce que vous lui dites, voilà, le petit bilan entre guillemets ou encouragement de Moneta.
Voilà. Bah écoutez, moi, je constate qu'en France, les épargnants ont beaucoup d'épargne peu risquée, donc placée dans des livrets ou dans de l'assurance vie. Alors certes, il y a des objectifs à cela, il y a des objectifs patrimoniaux à cela, mais je pense que la partie risquée aujourd'hui peut être augmentée, et notamment la partie qui vise à investir dans les fonds propres des entreprises. Investir en bourse, c'est investir dans les fonds propres d'entreprises, des belles entreprises qui créent des emplois, qui sont des entreprises qui ont des fortes croissances pour beaucoup d'entre elles. Et donc, moi, ce que je recommande, comme il est très difficile de faire du stock picking sur les petites, encore plus difficile que sur les grandes, bah, le mieux que vous puissiez le faire, c'est d'investir à travers un fonds. Il n'y en a même pas de trackers sur les indices petites valeurs, ouais. Puisque ce n'est pas très intéressant commercialement pour ces fabricants de trackers qui, eux, cherchent le volume. Donc, eux, ils se concentrent sur des produits indices monde. Il faut savoir qu'en investissant dans un tracker monde, vous investissez aujourd'hui à 70% aux États-Unis. Bah, il faut réfléchir, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux mettre un tout petit peu plus d'Europe pour ceux qui ont déjà des portefeuilles? Donc, rebalancer l'Europe et ceux qui aiment ceux qui ont une appétence au risque un peu plus importante, bah, ils pourraient investir dans des small caps.
Donc du risque, de l'Europe et de la gestion active, puisqu'on fait confiance à un fonds, et plus singulièrement à ceux de Moneta, bien évidemment.
Hein? Alors merci d'en parler, je n'ose pas en parler, mais c'est vrai que nos fonds ont une performance vraiment exceptionnelle sur le très long terme. Avec notre principal fonds Moneta Microentreprise, qui a été créé maintenant il y a 22 ans, qui a fait x19 depuis sa création. Donc, c'est 14%, plus de 14% de TRI net de frais, sans effet de levier pour l'investisseur, avec un sous-jacent totalement liquide.
D'accord.
C'est ce que le private equity promet, mais c'est ce que nous réalisons.
Andrzej Kawalek, donc, pour Moneta Asset Management. Merci d'être passé dans Cœur de Patrimoine et à très bientôt.
Merci, Cédric.
Et nous, on poursuit notre voyage dans votre patrimoine.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.